Oui, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, la radio web à la carte. L'oiseau blanc, Philippe Trousselard, bonjour. L'oiseau blanc avec aujourd'hui en direct
Vincent Desjours, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans l'avant-dernière émission, j'accueillais un commandant de bord long courrier d'Air France pour nous parler de son métier. Et nous allons passer cette heure avec l'un de celles et ceux avec qui tout pilote commercial en vol est en contact radio permanent. Si je vous dis que leur métier est d'assurer la sécurité, mais aussi la fluidité du trafic aérien. Mon invité de ce jour est actuellement en direct de l'aéroport d'Orly, et il a accepté de nous parler de son métier d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne qu'il exerce donc sur cet aéroport parisien, plus communément appelé et connu sous le vocable de contrôleur aérien, voire de manière plus imagée encore, d'aiguilleur du ciel. Bonjour Vincent Desjours.
Bonjour.
Merci encore d'avoir accepté de nous parler de votre métier si particulier, très exigeant en matière de responsabilité. Analyse, prise de décision en temps réel, gestion du stress en font les particularités. Espérons que ce direct d'une heure, car nous sommes en direct actuellement avec vous, Vincent, qui êtes sur Orly, ce direct ne sera pas contraint par des problèmes techniques, peut-être en particulier du mauvais temps sur Toulouse, il y a presque de l'orage ici. Alors nous allons aujourd'hui avec vous nous concentrer sur l'exercice et le vécu d'aiguilleur du ciel que vous êtes. Aussi, nous essayerons d'oublier, par exemple, les questions liées à l'actuelle période en cours avec tous ces aléas politiques, économiques, le trafic, la réduction, etc. Oui, non, ce qui nous intéresse aujourd'hui est de pouvoir rêver avec vous, Vincent, de votre métier. Parlez-nous de vous, déjà de cet homme que vous êtes, avant d'être cet aiguilleur du ciel derrière son micro et son image radar.
Eh bien, bonjour, donc Vincent Desjours. Aiguilleur du ciel, contrôleur aérien à Orly, puis quelques années maintenant. J'habite à côté d'Orly. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Je partage mon temps libre avec du sport, avec un peu de musique, évidemment la vie de famille. Et puis ce métier qui nous passionne.
Métier qui vous prend beaucoup quand même un peu.
Oui, oui. Alors j'ai une particularité qui est assez fréquente hein, chez les contrôleurs aériens, de cumuler à la fois la fonction de contrôleur aérien, mais aussi travailler dans des fonctions support, et en ce qui me concerne, plus particulièrement les systèmes qui permettent aux contrôleurs aériens d'outiller leur métier, et en particulier de la modernisation de ces systèmes.
Alors, avant de poursuivre l'objet de l'émission, qui est bien évidemment de connaître et de nous confier votre vécu de ce métier, quelle formation avez-vous eue pour devenir contrôleur aérien ?
Alors, en France, les contrôleurs aériens passent tous par la case ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, qui est basée à Toulouse, justement. Et qui a un recrutement sur deuxième année d'études scientifiques, en l'occurrence, ce qui me concerne, maths sup, maths spé, et concours d'entrée, et ensuite une formation. Donc à Toulouse, pour partie, pour un gros tronc commun, et ensuite une affectation dans des centres de contrôle pour terminer en alternance, disons, la formation pratique et théorique. Qui est sanctionné donc d'un diplôme à la fin du cursus. Alors, j'en profite là pour faire une parenthèse parce que la formation a changé depuis mon passage à l'ENAC. Moi, je suis arrivé, c'était le concours 2002. Et donc depuis, il y a eu des modifications, pas tant dans le recrutement que dans le contenu vraiment de la formation et les titres qui y sont associés. Donc voilà, mais bon, l'essentiel est quand même là, c'est qu'il y a un trou commun qui est à Toulouse, qui permet de préparer des contrôles aériens, travailler ou dans des tours de contrôle, on reviendra en particulier à Orly, ou dans des centres en route peut-être si l'heure nous le permet. Mais que cette formation, elle amène à un diplôme, elle amène pas à une capacité à exercer le métier du contrôle aérien. La capacité à exercer le métier de contrôleur aérien, elle s'acquiert dans les centres de contrôle. Voilà. Et en l'occurrence pour Orly, il faut compter une trentaine de mois, pour avoir cette capacité de.
Je reviendrai avec vous sur cette question de la formation. Mais en fait, vous avez dit vous avez passé le concours après Matsup et Matsp, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, ce qui justifie le titre que vous avez, ce métier aujourd'hui d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne. Mais à la sortie de Matsp, vous aviez peut-être un autre choix d'ingénieur. Alors pourquoi ce choix de contrôleur aérien?
Oui, alors moi j'étais quand même très orienté aéronautique, hein. c'était mon truc depuis longtemps. J'avais vraiment un gros driver pour faire le métier d'aéronautique. Alors quand on est, enfin en tout cas moi quand j'étais petit garçon, c'était pas, je connaissais pas le métier de contrôleur aérien. Peut-être comme beaucoup de nos auditeurs, le contrôleur aérien, on en entend parler, sous le terme d'un métier stressant, parfois. Parfois, quand il y a des mouvements sociaux, c'est un peu les deux grandes lignes pour lesquelles on entend parler du contrôle aérien. Quand on est petit, c'est pas une vocation, disons, de devenir contrôleur aérien si on n'a pas dans sa famille, soi-même déjà, des parents, des cousins, un oncle qui fait déjà ce métier. Non, moi, évidemment, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voler. Moi, c'était pilote que je voulais faire quand j'étais petit.
On est deux, alors.
j'ai eu un événement... Je ne parle pas forcément très souvent et je ne suis même pas sûr que les intéressés le savent forcément, mais quand j'avais 6-7 ans, disons, pour l'anniversaire d'un ami d'enfance, son père était pilote privé. Et donc pour l'anniversaire, on était quelques-uns à avoir été invités à faire un baptême de l'air dans un petit coucou, dans ces petits avions. Je me souviens encore, l'immatriculation, c'était un Lima Juliette. Je ne savais pas que ça correspondait à un alphabet aéronautique, mais il y avait Lima Juliette, un avion rouge et blanc, que je sais depuis avoir été un DR-400, mais à l'époque, je ne savais pas. Je me souviens de la piste des Mureaux, je me souviens un peu de toutes ces choses-là. Je me souviens de ce vol, je me souviens que j'avais été un peu bouleversé par ce truc-là, et d'avoir dit, comme on dirait après avoir visité une caserne, je serai pompier, moi j'ai envie de voler, je serai pilote. Et je pense que c'est un peu en réaction à ça, ou dans mon entourage, on me disait, tu sais, c'est un métier qui est pas si simple, qui est rien, il faut faire les efforts à l'école, évidemment, donc c'était très opportuniste pour mes parents d'appuyer sur ce levier-là. Et donc ça, c'était un driver de tout petit pour me dire, il faut aller dans cette direction-là, il faut viser des études scientifiques, il faut viser une maths sup, une maths spé, enfin, c'était donc vraiment un gros driver. Il y avait aussi les aspects santé aussi, parce que j'ai eu un pépin pas très grave, mais qui me nécessitait d'être très rigoureux sur la rééducation. Tout ça dans le but vraiment d'aller chercher le pilote de ligne. Et en fait, au fur et à mesure qu'on approche justement des concours de la terminale, de Matsup, de Matsp, de passer le concours, on rencontre aussi forcément ce métier du contrôle aérien, avec ses avantages, ses inconvénients, des découchés, une vie de famille, ce genre de choses. Moi, j'ai fait une petite expérience quand même dans la formation initiale de pilote de ligne, qui m'a permis aussi de rencontrer des contrôleurs aériens. Et pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer là, mais toujours est-il que j'ai rencontré le métier de contrôleur aérien à ce moment-là, j'ai passé le concours de contrôleur aérien. Et ça n'a jamais vraiment été une option d'être ingénieur. Ça a jamais été, mon truc, c'était l'aéronautique.
Alors, ce qui est assez intéressant, et je le dis souvent dans cette émission, c'est que vous avez fait référence à ce déclic d'enfance, 6-7 ans, et on le retrouve très souvent. Bon, ça, c'est une première remarque, hein, comme quoi l'âge à 6-7 ans, eh bien, c'est important. C'est peut-être à partir de là que certaines, je dirais, vocations se font jour. Alors, il y aurait une deuxième question liée un petit peu à ce déclic. Vous êtes sorti de l'ENAC, mais pourquoi avoir choisi Orly? Parce que, bon, en France, il y a d'autres sites. Hein. Pourquoi la région parisienne? Pourquoi Orly?
Oui, très bonne question. En fait, il y a plusieurs éléments de réponse. Hein. Bon, la vie, c'est un peu ça aussi, hein. C'est des concours de circonstances à un moment donné où on fait son choix. Bon, moi, de base, je suis de la région parisienne. Bon. Et donc, contrairement à ce qu'on aurait pu dire, enfin, moi, en tout cas, c'était pas du tout dans mon idée de revenir, revenir en région parisienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, au cours de la formation, on est évalué, on est noté sur des contenus théoriques, mais aussi sur des simulations de contrôle, et que ça amène à un classement en fin de... de tronc commun, disons, et que pour 30 élèves, 31 en l'occurrence, ce qui était notre cas, il y a 31 postes, et le mieux placé choisit son poste. Donc voilà, moi j'étais pas le premier, donc je choisissais pas, déjà premier truc. J'avais pas a priori envie d'aller en région parisienne, et le seul truc qui a pu me faire revenir en région parisienne, c'était de revenir à Orly, c'est-à-dire un centre un peu à taille humaine, un aéroport et pas un centre en route, on pourra en revenir parce que c'est un petit peu différent. Je pense que c'était lié aussi à moi, mon imaginaire d'enfant, l'aéronautique, les avions, c'est forcément dehors, c'est forcément une tour de contrôle. Un contrôleur aérien, on imagine autorité décollage, autorité d'atterrissage, on n'imagine pas le centre en route, donc c'était un peu ça. Et dernier élément, et non des moindres, c'est que moi je suis tombé amoureux pendant ma formation. Et
amoureux du métier, vous voulez dire?
Pardon?
Non, je disais amoureux du métier.
Non,
j'ai compris, Vincent, j'ai compris ce que vous dites.
et donc du coup, il y avait un peu cette notion-là aussi de se dire que il faut qu'on soit à peu près pour se donner une chance dans des environnements plutôt proches. Et donc il y avait aussi cette opportunité de travailler à Tis Orly, un centre en route qui est juste à côté d'Orly, pour mon épouse et moi là. Et il y avait finalement pas trop d'autres choix où on aurait pu faire cette composition, cette combinaison un peu idéale. Donc voilà, il y a plein de choses qui font ça. J'étais pas spécialement attiré par Orly au départ. Et puis en fait, c'est un centre qui est très très atypique aussi quand on met un pied dedans. Et aujourd'hui, en partir, c'est un peu... c'est pas si simple, quoi.
Alors, on ne peut pas, je dirais, aller dans le détail de votre fonctionnement, centre en route, aéroport, mais est-ce que vous pourriez quand même nous préciser rapidement la différence entre le travail que vous effectuez, vous, aujourd'hui, en tant que contrôleur aérien sur Orly, et celui, par exemple, à côté, en centre en route à Tismons? Qu'est-ce qu'un centre en route, rapidement? Et l'aéroport, vous en tant que contrôleur, quelle est la différence? Encore une fois, hein, brosser...
Ouais, en essayant de faire rapide, prenons un exemple d'un Paris-Toulouse. Un vol Paris-Toulouse, le pilote va être en permanence en contact avec un contrôleur aérien. Et ce ne sera pas le même contrôleur aérien. Il faut imaginer toute cette trajectoire par une succession de petits volumes de responsabilités qui sont déterminés par un contrôleur, un volume physique et puis une fréquence radio. Mais évidemment, donc il y a les contrôleurs aériens de Toulouse et il y a les contrôleurs aériens d'Orly. Et entre les deux, la jonction se fait par les centres en route. En France, on a 5 centres en route qui couvrent l'ensemble du territoire métropolitain, Corse métropolitain pour faire simple. Et ces 5 centres en route donc sont Brest, Reims, Aix, Bordeaux et donc Paris, qui est basé à Tismon, juste à côté d'Orly. Donc la répartition, c'est ça, à Orly, pour faire simple, on va faire une cinquantaine de nautiques autour d'Orly, une centaine de kilomètres pour fixer un petit peu les idées, où les avions vont rester en contact avec des contrôleurs qui sont basés à Orly. Même chose du côté de Toulouse. Et entre les deux, ça va passer par un ou des contrôleurs à Tismons, puis un ou des contrôleurs à Bordeaux. Voilà. C'est un peu comme ça que ça se répartit. Et en termes de... Bon, il y a un volume qui compte, donc c'est aussi des tranches de niveau. Et on tourne autour du niveau 100, en fait, où les échanges se font entre les centres, vraiment, entre Orly et Atis, par exemple.
Et est-ce qu'on peut dire, finalement, que l'espace aérien sur le vol que vous venez de prendre, pour exemple, Toulouse-Atis-Mons, que l'espace aérien est divisé en volumes dans lesquels on essaye de mettre en corrélation la complexité et le contrôleur qui sera associé à ce volume.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans chaque petit volume, il va y avoir une complexité qui est différente. Sur la piste à Orly, le vol, il y a la préparation des vols, donc là, c'est savoir quelle est... quelle va être la route, quelle va être l'heure de départ, quelle va être la piste en service, quelles sont les conditions météo, c'est ce genre de choses-là. Les moteurs ne sont pas allumés, les passagers sont en train d'embarquer, mais le contrôleur est déjà en contact avec le pilote. Une fois que ça s'est fait, les portes sont fermées, l'avion va reculer et va circuler sur la plateforme pour aller jusqu'à la piste. Ça, c'est un deuxième contrôleur. Là, la complexité, ça va être pour les contrôleurs aériens de gérer tous les avions qui vont repousser, faire une marche arrière, engager un taxiway, bloquer la circulation au sol. Il y a les avions qui sont au départ, il y a les avions qui sont à l'arrivée. Voilà, il y a cette complexité-là à gérer. Et une fois qu'on arrive au point d'attente avant la piste, il y a un changement de contrôleur. Là, la complexité pour le contrôleur, ça va être de gérer des pistes au départ, enfin une piste au départ, une piste à l'arrivée, des hélicoptères qui transitent, d'occuper la piste le plus intensément possible pour garder la fluidité maximale. Ça va être la complexité de la position lock. Et puis après, tous les avions vont partir serrés les uns derrière les autres, toujours face au vent, juste après la piste, et ils vont se retrouver en l'air, très proche. Et là, c'est le contrôleur suivant, le contrôleur départ, qui lui va avoir pour mission de les orienter cap à l'est, cap à l'ouest, cap au sud, cap au nord, selon la destination, et de créer des espacements entre les appareils, deux avions qui vont aller, je sais pas, mettons, Toulouse et Madrid, ils vont avoir le même point de sortie, disons, et de manière à ce que le contrôleur d'ATIS, qui sera le suivant, puisse avoir la séparation qui va bien. Mais le contrôleur d'ATIS, il va devoir intégrer à ses départs Orly-Toulouse ou Orly-Madrid, des départs qui viennent de Bruxelles, des départs qui viennent de Roissy, des avions qui font une trajectoire, je ne sais pas moi, Brest-Strasbourg par exemple. Donc la complexité des volumes à chaque fois va être un petit peu différente. On va retrouver la symétrie à Toulouse.
Alors ce qui est intéressant dans votre explication, on peut imaginer, c'est-à-dire qu'en fait le contrôleur qui s'occupe de la piste, en particulier de la piste, on est à un niveau à deux dimensions, si je comprends bien. Et en fait le contrôleur qui lui, une fois l'avion décollé un peu plus loin dans le centre en route, on se retrouve dans trois dimensions. C'est-à-dire que la complexité est un peu différente. Est-ce que ça veut dire que le contrôleur qui lui est dans un volume au-dessus de la piste, c'est-à-dire en approche, ou tout au moins en centre en route, lui va plus particulièrement s'occuper de séparation, plus que d'aider à la fluidité sur une piste à l'arrivée, par exemple.
Je ne sais pas si on peut... je n'ai pas parlé des secteurs à l'arrivée, mais les secteurs à l'arrivée, on va avoir... Pour reprendre le métier d'approche, je reviendrai sur cette histoire d'ACC, mais les métiers qui sont le métier d'approche à Orly, on a deux gros robinets d'entrée, disons, le sud-est et le sud-ouest, pour faire très simple. Et donc les avions ont été livrés par le centre en route avec des normes d'espacement et de séparation qui sont celles qui sont prévues. Le travail de l'approcheur, ça va être d'amener ces avions, ces deux flux d'avions, ces deux robinets qui amènent un certain nombre de flux d'avions, de les amener les uns derrière les autres à la piste, avec un espacement qui va être dépendant des conditions du jour, qui va être dépendant de la météo principalement, on va s'arrêter sur ce cas-là. Et faut comprendre que quand il fait beau, on va poser toutes les, disons, 70 secondes à la piste. L'avion se pose, il freine de manière efficace, il libère la piste. Et dès qu'il a libéré la piste, on a créé les 70 ou 80 secondes qui vont bien pour pouvoir poser le suivant. S'il pleut, s'il y a du brouillard, si les conditions météo sont différentes, on va avoir besoin, disons, de 2 minutes, 3 minutes parfois entre les avions. Et le robinet d'entrée est toujours à peu près le même. Ça, c'est... Donc on a toujours cette notion de séparation et d'espacement qu'on va devoir appliquer pour la sécurité, évidemment, et pour la fluidité. En ACC, c'est un métier que je connais évidemment beaucoup moins. Il y a des normes de sécurité qu'il faut appliquer. Il y a évidemment les conditions de vent qui vont certainement jouer, mais la dépendance à la météo est certainement un peu moindre. C'est pas tout à fait les mêmes complexités. Nous, notre but, par contre, ce qu'on peut dire, si on voulait faire une vraie différence, c'est que nous, notre but à Orly, c'est de les rapprocher les uns des autres, les avions, finalement. De les rapprocher autant qu'on peut pour avoir une meilleure occupation, enfin, l'occupation de piste la plus intense.
Alors, oui, vous êtes obligé de rapprocher parce qu'en fait, à la fin ou au début, il y a la piste.
À la fin ou au début, il y a la piste.
Voilà. Et en fait, en route, eh bien, il les sépare.
Et voilà, c'est ça, il essaie d'accélérer au maximum, de raccourcir les trajectoires pour ne pas rester sur les traits. Et il y a quand même cette notion de capacité, de fluidité aussi, hein, c'est-à-dire ne pas laisser les avions sur leur route prévue, mais toujours les raccourcir dès que c'est possible.
Alors encore une fois, il est difficile, hein. Je dirais on n'a qu'une heure, c'est déjà pas mal, mais c'est difficile d'englober toute la présentation. Mais on voit bien, donc vous arrivez pour revenir, vous sortez de l'ENAC, vous avez déjà une partie de formation, vous arrivez sur site et puis vous avez une formation sur site. Alors comment ça se passe cette formation complémentaire hein, que vous avez eue sur Orly?
Eh bien, alors à Orly, comme dans beaucoup de centres, hein, il y a une subdivision instruction qui est spécialisée là-dedans pour l'accueil des nouveaux arrivants. Ou des contrôleurs qualifiés viennent aussi se détacher pour apporter, disons, l'enseignement initial. Et ensuite, donc c'est une première partie, et ensuite il y a une formation dans les équipes de contrôle directement. C'est pas forcément le cas dans tous les centres en France, mais dans les ACC dont on a parlé, à Orly, CDG, dans la plupart des grandes tours, les fonctionnements sont faits en équipe. Et un stagiaire, un contrôleur en formation, est affecté dans une équipe et l'équipe, dans son ensemble, est co-responsable de la formation de cet élève. Alors là, il y a des relations humaines, évidemment, qui rentrent en ligne de compte, très importantes, pour partager des buts communs, hein, savoir donner la meilleure des formations dans le meilleur délai possible. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Très concrètement, il y a une partie théorique où l'élève travaille beaucoup avec la sub-instruction et la partie vraiment pratique se fait sur simulateur et en salle de contrôle, c'est-à-dire que le contrôleur en formation est branché par nos avions et à côté, branché également, il y a le contrôleur qualifié qui est à côté, qui peut reprendre la fréquence si jamais il y avait une difficulté quelle qu'elle soit, conseille le contrôleur en formation, l'aide, l'accompagne, enfin, c'est comme ça que ça se passe. Et évidemment, il y a des séances de briefing et de débriefing. A priori et a posteriori.
Alors, vous avez parlé de l'humain et on perçoit finalement une grande particularité de ce métier dans sa formation parce que vous avez votre instructeur, l'élève a son instructeur à côté, ben, je dirais qu'il est en surveillance. Alors certes, on peut être en surveillance, même dans une entreprise, on peut être en surveillance avec son chef de service, son patron un peu plus loin, mais là, celui qui regarde votre travail, il est à côté de vous au sens premier du terme. Je dirais, on se touche, on se regarde. Et donc, le rapport humain est quand même très particulier dans cette formation.
Oui, c'est évident. Moi, oui, c'est vrai. Et alors, moi, c'était ma première affectation à Orly. Je l'ai vécu comme un élève, hein, comme contrôleur en formation. C'est une chose, mais c'est une partie de la formation. Finalement, on est en maths sup, on est en maths spé, on apprend notre métier à l'école, on arrive en centre, on continue d'apprendre notre métier et on est supervisé par quelqu'un. Bon, voilà, c'est le processus normal. Il ne faut pas négliger aussi la difficulté que ça peut être pour un contrôleur qui a déjà été qualifié dans un centre et qui, par le biais d'une mutation, arrive dans un nouveau centre et Orly comme un autre et se retrouve dans une situation d'élève à qui on va réapprendre non pas son métier, mais le contexte d'Orly. Et là aussi, il y a des ficelles, évidemment, facteurs humains qui sont à connaître. Alors on est accompagné, hein. C'est pas chacun se débrouille avec son propre bagage personnel. Il y a des formations pour être superviseur. Tout contrôleur a vocation à être superviseur. Hein. Enfin, mais c'est sûr que.
Et avec l'âge, toute reconfiguration peut devenir difficile, parce que lorsqu'on est jeune, une fois on apprend un peu plus vite, mais vous venez de le dire, c'est-à-dire que lorsqu'on a une expérience sur un centre et qu'on se retrouve dans un autre avec une complexité absolument différente, c'est une sacrée remise en cause, j'ai l'impression.
Oui, alors encore une fois, je l'ai pas vécu, alors je vais avoir du mal à être un peu plus loquace là-dessus. Mais oui, on le sait bien, on le sent bien, ce qui ne veut pas dire qu'il faut avoir deux traitements différents, mais enfin, disons pas complètement différents, mais c'est à prendre en compte. Il y a ne serait-ce que la maturité, hein, les premiers avions auxquels on parle, c'est pas pareil quand on a déjà fait 20 ans ou 30 ans de contrôle dans un autre centre ou quand on sort de l'ENAC, ça c'est sûr aussi.
Alors la différence, on revient avec ces 5 centres en route dont on a parlé tout à l'heure. Bon, donc le contrôleur, lui, ne voit pas les avions, hein, il est dans une salle de contrôle, mais vous, à Orly, vous les voyez ces avions, vous êtes dans la tour et bon, vous pouvez les regarder.
On les voit, on les regarde, on les contemple même, on les observe, on les prend en photo, on les... Oui, je crois qu'on n'est pas insensible à ça. Hein. C'est oui, on les compare, on les commente. Non, bien sûr, on les voit. C'est tout l'intérêt. C'est vraiment, je pense, la petite cerise sur le gâteau. Un lever de soleil avec la première arrivée transatlantique, par exemple.
Et je vois que vous regardez par votre fenêtre, vous êtes sur Orly, là, et donc il risque de neiger, c'est ça?
Et oui, bon là on est vraiment très dans l'actu, hein, mais il y a des attentes là demain de neige et donc de perturbations forcément sur le trafic aérien.
Alors prenons l'exemple, puisqu'on rebondit là-dessus, la perturbation de quelle nature? C'est-à-dire lorsqu'il y a de la neige annoncée hein, sur le terrain, comment ça se passe là pour vous en tant que contrôleur? Alors bien évidemment je suppose qu'il y a la préparation en dehors, si je puis dire, dans les bureaux, mais après.
Ben, concrètement, ça dépend des tombées de neige en fait. Il y a une notion de froid, il y a une notion de dégivrage, donc ça c'est des procédures qui sont qui sont très limitées aux compagnies et à ADP. Nous on est moins partie prenante de ces événements-là, mais ça crée du délai, ça crée de l'incertitude sur quel avion va partir avant quel avion, ça porte des contraintes opérationnelles, ça, le dégivrage. Et puis après, il y a l'enneigement, tout simplement, une piste qui est. On appelle ça contaminé, alors ça peut être contaminé par de l'eau, mais contaminé par de la neige, c'est plus glissant, ça freine moins bien, et à un moment les coefficients de freinage sont tellement mauvais qu'il faut déneiger. Il faut déneiger les pistes, mais il faut aussi déneiger les taxiways, donc tout ce cheminement au sol qui permet de relier les parkings aux pistes. Et ça occupe la plateforme, ça occupe les pistes. Ça veut dire que c'est autant de temps où on ne peut pas utiliser les pistes, où les taxiways vont être en usage limitatif. On a par exemple une procédure qui dit que quand la neige tombe de manière drue, on va n'utiliser qu'une seule piste. Pourquoi ? Pour avoir des décollages et des atterrissages sur la même piste, ce qui fait qu'on va avoir une densité de trafic qui va permettre un déneigement naturel de la piste. Le fait qu'il y ait des avions en permanence dessus va faire que l'enneigement va avoir... moins tendance à s'imposer, un peu comme sur une route. Et pendant ce temps-là, on va déneiger l'autre piste. Et quand ça deviendra non soutenable, à ce moment-là, on va passer sur l'autre piste. Tout ça, évidemment, ces conséquences opérationnelles qui sont liées à la météo, vont avoir des répercussions sur le nombre d'avions qu'on peut décoller, atterrir, à sécurité maximale et constante, surtout.
Et finalement, des répercussions dans les dialogues, puisque comme on le disait tout à l'heure, vous êtes toujours en contact radio avec les pilotes. Ça veut dire que dans de telles configurations, l'échange pilote-contrôleur est particulier.
Oui, de toute façon, que ce soit de la neige ou que ce soit du brouillard, enfin, dès qu'il y a une situ où qu'on soit dans une configuration, disons, non nominale, exploitation de la même piste au décollage et l'atterrissage. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre nominal. On a des pistes dites spécialisées, une qui est dévolue uniquement au départ, une qui dévolue uniquement aux arrivées. Tout ça pour augmenter la performance de l'aéroport. Mais si une piste est fermée à cause des travaux, pour n'importe quelle raison, en cas de brouillard, en cas de neige, dès qu'il y a une situation qui est non nominale, forcément il y a une... Il y a un niveau d'intensité, de concentration dans les échanges qui est différent. Oui, je pense que c'est valable dans tous les métiers.
Oui, vous avez de la chance de parler peut-être, d'être plus proche des pilotes, et surtout vous voyez les avions dans votre tour, contrairement à vos collègues du centre en route.
C'est vrai. Eux, ils ont plutôt la notion de performances différentes, c'est-à-dire... les taux de montée, les taux de descente, les vitesses, ce genre de choses. C'est plutôt ça qui va les intéresser, c'est plutôt les données techniques. D'ailleurs, nous aussi, ça nous intéresse, hein, mais on est aussi attaché à la couleur et au style d'un avion.
On va changer un tout petit peu sur le en tour, par exemple. Vous avez quel moyen technique? Est-ce qu'on peut comparer les moyens techniques dont vous disposez en tour? Alors, la vigie, hein, c'est-à-dire que le passager, ce qu'on voit sur un aéroport, on voit la tour de contrôle et on voit la vigie. Donc vous êtes parfois en vigie, mais vous êtes parfois sur d'autres positions, des positions une salle particulière sur Orly.
Oui, alors on a la vigie, effectivement, et on a la salle IFR. Donc comme je disais, les différents métiers qui y a à Orly sont répartis soit vraiment dans la tour de contrôle, donc ça va être la prévol, le sol, le lock, et puis le départ et l'arrivée dans la salle IFR.
Alors ce que vous appelez IFR, vous pouvez nous préciser un petit peu ?
Oui, alors c'est un excès de langage, c'est vrai, IFR, pour ceux qui ont des connaissances de pilotage, c'est la partie vol aux instruments. Donc c'est vraiment, on n'utilise plus nos yeux pour contrôler, enfin on utilise les yeux, mais on n'utilise plus uniquement l'extérieur pour contrôler. Ce qu'on fait au sol et au lock, on regarde les avions, on les voit dehors. Dans salle IFR, on travaille un peu comme pour la CC, pour le coup, uniquement sur radar. Alors, à Orly, il y a une cinquantaine de systèmes qui permettent d'outiller le métier, avec beaucoup de systèmes secours. Mais les outils essentiels sont effectivement la radio, le téléphone et l'image radar, qui elle-même est alimentée par des sous-systèmes, notamment des alertes, des systèmes d'alerte qui nous permettent d'anticiper les conflits dont on avance et de venir donner un coup de main au contrôleur.
Alors nous allons, Vincent, garder en mémoire cette notion d'alerte et de système, parce que nous arrivons déjà à notre point de rendez-vous que nous devons respecter, celui de la pause musicale. Alors vous avez eu le choix, Vincent, quel est votre choix ?
Eh bien, je vous ai proposé une version d'une chanson de Grand Corps Malade qui chante, non pas avec Louane comme il l'a fait dans son album, et qu'il chantait magistralement d'ailleurs, mais une version qui a été chantée lors d'une émission l'année dernière et qui s'appelle The Voice, je ne sais pas si on a le droit de nommer, mais avec une chanteuse qui s'appelle Mentissa et qui travaillait à l'époque avec Vianney. Et voilà, j'aime bien Vianney, j'aime bien Mentissa, j'aime bien Grand Corps Malade. Il a fait un super concert mardi soir à Paris. Et donc voilà, mais si ça vous va, on peut.
Ah ben Vincent, si vous aimez, on va écouter.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Y'a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y'a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y'a pas de recette, toi t'en avais pas non plus. Personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y'a pas de recette quand l'enfer te serre la main. Abandonner c'est humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. Exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole, quand la vie te punit, la musique te console? À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration, et à quel moment on en fait une chanson?
Si je me sens. Je peux regarder devant.
sorte de brouillard. J'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi, sans vraiment le prévoir, naturellement, ma voix l'a rejoint. On n'a pas du tout la même histoire, mais finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes. Le brouillard est bien loin.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin. J'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin.
Alors, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Et finalement, une chanson qui nous invite au réconfort et qui peut nous apporter la musique dans les moments difficiles pour, disent-ils, tenir dans l'orage. Alors, on peut dire que ces encouragements nous sont bien utiles en cette période si compliquée dans notre monde en agitation. Et nous revoici avec Vincent Desjours, contrôleur aérien à l'aéroport d'Orly, qui nous fait partager l'expérience de son métier, et je dois dire avec le sourire, puisque moi j'ai la chance de le voir, afin de nous le faire mieux connaître, ce métier. Alors Vincent, on a arrêté avant de faire la pause, vous nous parliez d'alerte, c'est-à-dire en fait, lorsque sur votre position de contrôle, la situation peut se dégrader, malheureusement, ben, c'est un métier complexe, et ce métier complexe veut certainement dire que vous êtes obligé de travailler parfois aux limites et que ces limites peuvent être dépassées. Et comment ça se passe en fait, ces études que je qualifierais d'incidents? C'est-à-dire comment l'incident, lorsque vous êtes contrôleur, vous quittez votre position de contrôle, et est-ce que derrière on peut connaître précisément le travail que vous avez fait, et il y a des enregistrements à ce niveau-là?
Oui, c'est-à-dire que tout est systématiquement enregistré, que ce soit les images radar, tous les systèmes dont on dispose, les voix, que ce soit la radio, que ce soit le téléphone, tout est enregistré pour archivage et analyse a posteriori si jamais il y avait besoin. Alors, les alertes, elles se déclenchent pas forcément quand il y a un incident, il y a différents types d'alertes qui se présentent. L'idée de l'alerte, c'est de prévenir avant que le danger soit là. Des fois, il y a 30 secondes avant un rapprochement qui serait normal avec l'inertie des radars et des virages.
Alors justement, Vincent, je vous interromps là, si vous pouvez nous préciser peut-être qu'est-ce qu'une alerte, nous la présenter par les mots.
Alors, on a... Alors, je pourrais parler très rapidement de trois types d'alertes. Il y en a... Une qu'on appelle le MSO, là, c'est un filet de sécurité qui permet de prévenir les collisions avec le sol. C'est si jamais il y a des altitudes ou des projections de trajectoire qui viendraient percuter le sol, une descente trop rapide à proximité du sol par exemple, ou un suivi d'approche finale qui ne serait pas dans des bonnes conditions, et il y aurait un risque algorithmiquement calculé par les systèmes qui dirait attention, cet avion-là, il a une trajectoire qui l'emmène au sol, trop rapide, trop ci, trop ça. Donc là, on a une alerte qui va s'afficher sur notre image radar. Et nous, on va constater ça et on va dire au pilote, attention, vérifiez vos minima, vérifiez votre trajectoire, est-ce que tout est OK chez vous? Oui, non, OK, voilà, et on prend des actions qui sont nécessaires. Un autre filet de sauvegarde qu'on appelle, c'est le short-term conflict. Ça, c'est un filet de sauvegarde, c'est quand il y a un rapprochement entre deux plots radar où la prédiction de trajectoire va être conflictuelle et rapprochement en dessous d'une certaine norme radar. À Orly, considérons trois nautiques Il faut que les avions, les plots radars, soient à distance de 3 nautiques minimum.
Alors 3 nautiques
5-6 km. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête, 5-6 km. Mais avec les vitesses qui sont celles des avions, ça fait finalement, si on est face à face, ça va très très vite. Hein, c'est 3 nautiques.
Oui, parce qu'en fait, on peut, je vous interromps Vincent, mais en face à face, on peut se retrouver finalement à... En dessous d'un certain niveau, on est à quelle vitesse chez vous à Orly dans l'approche ?
On est à 250 nœuds en entrée de secteur, disons, et à la piste, ça atterrit d'école aux alentours de 150 donc nœuds.
Et les nœuds, donc les 250 en km/h pour nos auditeurs ?
Ça fait un 400-500 km/h dans ces eaux-là.
Ouais, donc en face à face, on se retrouve à quasiment 900 km/h.
Oui, c'est ça. Bon, là, vous me faites faire des maths, là. Non, mais c'est ça.
C'est ça, oui.
Non, mais ça va vite. Voilà, ça va très vite. Ce que je voulais illustrer, c'est que oui, ça va très vite en face à face, ça va très vite. C'est pour ça que dans les normes de séparation, il n'y a pas que les séparations latérales. Je parlais des 3 nautiques, mais il y a aussi les distances verticales, où on a des niveaux de sécurité, des altitudes différentes, où on va pouvoir espacer les avions. Et là, on peut faire, on met deux plots l'un sur l'autre. J'ai envie de dire, dès lors qu'ils sont étagés en niveau, il n'y a pas de problème. Mais pour des avions évolutifs, disons un avion qui est stable à une certaine altitude, et un autre avion qui va être en montée, avec des taux qui sont ceux des performances des jets aujourd'hui, donc qui est parfois très, très important, même si on a donné une autorisation d'altitude inférieure à l'avion stable qui est au-dessus, ça va déclencher un filet de sauvegarde. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que les filets de sauvegarde vont se déclencher, pas forcément parce qu'il y a une situation dangereuse. Ça peut être complètement maîtrisé, mais le filet de sauvegarde qui est là pour déterminer, pour faire une projection de trajectoire et de dire attention, là, si rien ne change, alors il va y avoir une situation dangereuse. Et si jamais on a oublié ou si jamais on s'est trompé dans l'autorisation de niveau ou si jamais même le pilote a mal collationné, enfin ce genre de choses-là, à ce moment-là, il y a un filet de sauvegarde au niveau du radar qui va mettre la puce à l'oreille du contrôleur. Le contrôleur va faire une information de trafic pour confirmer que les choses vont bien. Je précise à ce moment aujourd'hui, parce que ça pourrait être un peu anxiogène chez certains auditeurs, de se dire, oh là, qu'est-ce qui se passe, il y a des rapprochements comme ça à l'envers. Il y a aussi des filets de sauvegarde à bord des avions, et avec des manipulations d'urgence aussi, et pour pas avoir d'impact en l'air. Ça, c'était le deuxième filet de sauvegarde, et il y en a un troisième, c'est vraiment aux abords des pistes. Si jamais il y a un véhicule qui est sur la piste, ou qui rentre sur la piste, alors qu'il y a un avion qui est autorisé au décollage ou autorisé à l'atterrissage là, il y a aussi un filet de sauvegarde qui va se déclencher. Bref, il y a beaucoup de filets de sauvegarde. Ce qu'il faut retenir, c'est que le contrôleur, il a son expérience, il a sa formation, il a son usage, il a sa qualification qui permet de passer le trafic et d'aller chercher la limite, mais il a aussi un outillage plus complet avec ses aides à la détection de conflits. Quand une alerte se déclenche, il y a systématiquement une analyse qui va être lancée par une approche qualité qui est présente dans tous les centres français, où là on va aller étudier les bandes audio, radar, pour essayer d'expliquer quelle est la nature de l'incident ou constater qu'il n'y avait pas d'incident, que c'était juste un déclenchement normal du filet de sauvegarde. Et à ça, on va avoir plusieurs conséquences possibles, hein. Changement de procédure, changement de formation, changement de système, changement même du paramétrage éventuellement de l'alerte, hein, si jamais il y a des alertes inopportunes qui se déclenchent trop souvent. Alors à ce moment-là, dans la démarche qualité, on va essayer d'améliorer les systèmes. Voilà, je suis un peu technique là, hein, c'est pas...
Oui, mais on sent, malgré tout, Vincent, on sent quand même une... Le métier, votre métier de contrôleur aérien, bon, d'aiguilleur du ciel, il y a quand même cette particularité, on parle d'alerte, c'est du temps réel, c'est-à-dire que je suppose qu'à certains moments, le cœur va peut-être un peu plus que d'habitude. La différence que je perçois à travers vos propos, c'est que le contrôleur, il vit sa situation en temps réel, il est obligé de réagir en temps réel, et après il y a les études qui arrivent avec un certain délai. C'est quand même une différence. Je crois que la particularité de votre métier, c'est bien la réaction et vos actions en temps réel, avec tout ce que ça peut comporter.
Oui, ça c'est le cœur du métier. Ça c'est comment réagir à une situation qui sort du normal, finalement. Comment réagir en mode un peu crise. Alors, c'est pas le plus souvent, hein, quand même.
Oui.
Mais c'est à l'instar de ce que peuvent vivre, j'imagine, les pilotes. Un vol qui se déroule de manière nominale ne fait pas appel à toutes les compétences du pilote. En revanche, il sait faire face à toutes les situations. Voilà, il faut savoir faire face, dans l'urgence, dans la crise. Et a posteriori, on va traiter ça pour regarder correctement qu'est-ce qui a amené à cette situation, parce que c'est souvent multifactoriel, et comment prévenir. Et prévenir, c'est peut-être aussi juste de faire de la communication auprès des collègues, parce qu'une situation qui arrive à un collègue dans une équipe, elle va arriver immanquablement dans une autre équipe, donc ce partage d'informations. Là, on est pareil, aussi structuré. Alors, il y a ce concept un peu de culture juste, c'est-à-dire exprimer, raconter pourquoi la situation est arrivée de cette manière-là, quel est le ressenti du pilote, quel est le ressenti du contrôleur, quels sont les facteurs qui ont amené à ça et comment les voir.
Et ce problème, en fait, de gestion du trafic sur le secteur, on a parlé tout à l'heure de position de contrôle. Il y a certains moments où vous arrêtez votre travail, c'est-à-dire que sur une position de contrôle, vous y êtes pendant une certaine durée, je suppose, et vous allez être relevé par un autre contrôleur. Ça doit être des moments particuliers, parce que vous avez intérêt à échanger de manière aussi bonne que possible pour que le trafic soit appréhendé par celui ou celle qui vous succède.
Oui, c'est ça. On a on pourrait appeler ça des checklists. On a des informations essentielles à transmettre sur le contexte, sur le moment de la journée, la configuration, la météo, un peu le ressenti du vent, enfin ces choses-là. Et puis très opérationnel sur les différents vols qui sont en compte sur la position ou qui vont être amenés à être pris en compte sur la position. Voilà. Après, bon, tout ce qui est nominal, généralement, on ne passe pas trop de temps, mais il y a des situations un petit peu particulières où des vols un peu particuliers avec des procédures qu'on aura choisies pour cet avion-là, voilà, on va mettre le focus là-dessus. Alors, une bonne relève, autant que possible, c'est assez court, hein. Après, il faut brancher le micro, passer le relais. Alors, Orly, c'est toutes les heures. Toutes les heures, il y a un changement de contrôleur. Enfin, ouais. C'est vrai que ça peut être perturbant peut-être pour les pilotes, je ne sais pas. C'est-à-dire, d'un coup à un autre, c'est plus la même voix qui parle, mais en fait, toutes les informations sont passées. Il n'y a pas de... Et d'ailleurs, avant de faire le changement de micro, le contrôleur relevant, il est à proximité pour s'imprégner un peu de la situation. Et puis ensuite, il prend le micro et le contrôleur relevé, il s'assure que tout a bien été passé. Et puis ensuite...
Vous venez de noter quelque chose qui me semble intéressant à souligner, c'est justement cette, j'allais appeler ça de la résonance entre le contrôleur et le pilote dans certaines situations complexes, en particulier sur un aéroport, et il me semble que le pilote, ce couple, à un moment donné, pilote-contrôleur, est important. Et la voix est importante, autant d'ailleurs côté pilote que contrôleur. Parce que dans la vie de tous les jours, on peut, sous certains moments, avoir des difficultés. Alors on va accélérer la voix, mais vous, en tant que contrôleur, votre voix doit rester aussi, j'allais dire, nominale que possible. Quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, pourrait justement être peut-être vous-même apaisé et puis apaiser le pilote que vous avez derrière, ou au-dessus.
Oui, sûrement. C'est sûrement idéal et c'est sûrement ce qui est le but qui est recherché. Maintenant, je pense que n'importe quel pilote dirait qu'il a senti le contrôleur dans une situation de stress aussi et inversement. Mais oui, c'est vrai qu'on essaie de toute manière d'avoir les échanges et la voix la plus... Il ne s'agit pas d'être rassurant, mais la plus professionnelle, la plus efficace. C'est ça que je cherche, la plus efficace possible. Le but, c'est pas forcément de mettre de l'émotion. Hein, c'est... Et puis, après, bon, à Orly, voilà, nous, on a 100% de pilotes professionnels aussi. Ça, c'est peut-être une composante pour laquelle j'ai pas trop d'expertise, mais... Il y a des sites en France où on parle aussi avec des contrôleurs, avec des pilotes du dimanche, hein, des pilotes amateurs, Et là, effectivement, les situations en l'air sont parfois un peu plus stressantes aussi. Et la voix du contrôleur a certainement un rôle important à jouer pour rassurer le pilote. Ça, c'est sûr. Les pilotes pro, oui, ils cherchent aussi de l'efficacité. Mais les échanges qu'on a en dehors de la situation de contrôle, parce qu'on a des rencontres avec les compagnies, avec les pilotes, pour mieux comprendre un peu le métier de chaque de l'autre, sont très riches. Et on arrive à savoir que dans certaines situations, ils préfèrent juste être isolés sur une fréquence différente, ils veulent pas entendre les autres dialogues. Tout ça, c'est des analyses a posteriori. Comment améliorer le relationnel entre le pilote et les contrôleurs?
Alors Vincent, je vois dans votre regard, dans cette discussion, quand on parle du cœur du métier, on est quand même au cœur du métier, on est au cœur de ce qui génère le stress. Alors, j'imagine, vous vous débranchez de votre position, donc deux solutions, vous allez peut-être en salle de repos ou vous repartez chez vous. Est-ce que c'est un métier dont on rêve, j'entends la nuit? Est-ce que tout ce vécu de jour vous amène à y repenser?
Alors, je pense que ça dépend des contrôleurs. Ça dépend des journées, ça dépend des situations. ça fait quand même partie du métier, hein, les périodes de stress intense, et quel que soit le métier, quel que soit le stress, avant qu'il disparaisse, ce stress, ça prend du temps. Donc, des souvenirs un peu douloureux, mais ça peut être de la formation aussi, une situation d'instruction qui a été douloureuse pour un élève ou même pour un instructeur. Bah oui, on peut y penser pendant plusieurs jours, nuit, je sais pas, mais on peut y penser. Un rapprochement, un incident, une situation qu'on aurait aimé faire autrement, évidemment, ça doit pouvoir rester. Alors encore une fois, il y a aussi des accompagnements, ça fait partie de la gestion du stress. C'est pas galvaudé, hein, de dire que c'est un métier stressant, c'est sûr. Voilà, on est accompagné, on est formé pour. Donc c'est comme ça. Mais est-ce que c'est... Je sais pas si la question c'était est-ce qu'on en rêve la nuit en disant vivement demain que je fasse mon métier rêvé, ou est-ce qu'il y a des moments douloureux que je traîne, auxquels je pense et qu'il faut quelque part, entre guillemets, soigner, disons. Mais oui, c'est un métier qui prend la tête.
Mais finalement, est-ce qu'on se fait plaisir aussi lorsque j'imagine, c'est peut-être un peu comme le sport, un peu comme le jogging. On veut faire son étape, on réussit. Et lorsque le trafic était très fort, pas mal d'avions, la difficulté dont on vient de brosser les éléments. Quand vous avez terminé, que tout s'est bien passé, et votre boulot, c'est quand même que ça se passe bien, vous êtes content, je suppose.
Ah oui, bien sûr, mais ça fait partie du métier, c'est sûr. Ça, c'est la satisfaction directe, hein. On sait, on a des conditions en entrée, à la fois de la séance et puis de notre volume de responsabilité. On a des conditions de sortie à appliquer. Je parlais du métier d'approcheur, par exemple, où on récupère des avions qui arrivent de différents points cardinaux et qu'il faut amener de manière très cadencée à la piste. Pour optimiser le trafic, la fluidité. Il y a une espèce de contrat qui est passé avec la tour en disant, voilà, je veux que tu me mettes, mettons 90 secondes sur chaque avion. Si on est à 90 secondes, si on fait une cadence, on exprime en nautique nœuds, hein, donc c'est 3 nautiques, 160 nœuds, 3 nautiques entre chaque avion, 160 nœuds pour chaque avion. Quand elle est réalisée, quand on a fait une séquence avec une occupation de fréquence proche de 100% pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, bah, l'intensité, elle est là. La satisfaction du travail bien fait, avec des échanges fluides avec les pilotes, bien sûr que c'est satisfaisant, bien sûr que c'est l'objectif de chaque séance. Et bien sûr que c'est le plaisir aussi d'être contrôleur, de concrètement produire quelque chose qui améliore à la fois la sécurité et la capacité de l'aéroport.
Alors, une chose qu'on a oublié de dire tout à l'heure, mais encore une fois, on ne peut pas aborder tous les thèmes et tous les sujets liés à la fonction. Donc, vous êtes dans le cadre de la fonction publique. Et je relis ce qu'on est en train de dire avec l'âge. C'est un métier qu'on peut exercer jusqu'à quel âge?
Alors là, je suis un petit peu perdu avec les différentes réformes, mais je crois qu'aujourd'hui, nous, on est soumis à une licence médicale. C'est-à-dire qu'on a une visite médicale tous les deux ans, tous les ans à partir de 40 ans, et avec un certain nombre de critères de santé, voilà. Donc, les critères, évidemment, les yeux, l'audition, évidemment le cœur, enfin, ce genre de choses. Mais cette licence médicale, cette visite médicale s'arrête à 59 ans. Qu'à 59 ans, on n'a plus le bénéfice de cette visite médicale, et donc du coup, on ne peut plus pratiquer le métier de contrôleur aérien. C'est assez brutal, et c'est comme ça que ça fonctionne.
Oui, parce que j'imagine qu'à partir d'un certain âge, vivre les situations de stress, même en situation normale, n'est pas quand même si aisé. Alors, il me vient à la question de l'évolution de votre carrière, c'est-à-dire que est-ce qu'un contrôleur, quelle est l'évolution de carrière possible pour un contrôleur aérien ?
Alors, le contrôleur aérien, donc il est élève, il est contrôleur en formation, il est un contrôleur qualifié. À Orly, donc on a plusieurs positions de contrôle, on est forcément qualifié sur toutes les positions de contrôle. C'est-à-dire qu'on va passer les qualifs les unes après les autres, mais elles ne seront valides que jusqu'à ce qu'on ait... Enfin, il y a un délai, on ne peut pas rester à moitié qualifié uniquement et se dire je ne fais pas d'approche, par exemple. À un moment, il faut avoir la qualif complète, sinon la qualification n'est pas retenue, et à ce moment-là, on est en échec de qualif, il faut faire autre chose. Voilà. Une fois qu'on a sa qualif, elle arrive, comme je disais, au bout d'une trentaine de mois à Orly. Et là, après, la carrière, on fait le métier du contrôleur. Ensuite, on peut accéder à d'autres fonctions, comme je disais, c'est-à-dire être détaché dans une subdivision support, comme j'ai pu le faire. On peut aussi accéder à un métier complémentaire, chef de tour. Il faut avoir un certain nombre d'années d'ancienneté, de compétences à acquérir, de stages à faire pour être un contrôleur qui va être en charge, disons, de toutes les coordinations à l'extérieur de la tour, l'armement des positions. Ça, c'est une évolution qui est possible aussi. Le contrôleur peut aussi changer d'affectation, demander une mutation pour passer d'un aéroport à un ACC, enfin, un centre en route. Il y a différentes choses. Ça, c'est un métier qui est assez riche de ce point de vue-là, parce qu'avec cette casquette d'ingénieur, on peut suivre des projets. On peut participer à l'amélioration de la qualité, l'instruction dans les phases amont, l'étude des systèmes. On peut faire toutes ces choses-là.
Alors, quel conseil vous auriez à donner à des jeunes qui nous écoutent et qui aimeraient faire ce métier ?
Eh bien, je dirais de venir voir un peu dans une tour comment ça se passe. Il y a plusieurs... Bon, déjà, il y a le métier, il y a l'intérêt que ça procure quand on est sur la position. Et puis, il y a aussi ce rythme de travail en équipe, avec des gens qui sont quand même soudés, avec un objectif commun. Pour certains qu'on voit aussi, les horaires décalés, ça compte, on n'en a pas parlé, mais comme on travaille H24 et qu'on est en équipe, on partage des moments sur des vacations de nuit, sur des vacations de week-end aussi. Et tous ceux qui travaillent en horaire décalé savent que ça crée des liens un peu particuliers entre les gens, ça va être un peu en dehors du temps de la semaine. C'est un métier qui est évidemment passionnant, qui est super, dont on ne sait pas trop avec les évolutions des systèmes comment on va être sollicité. Que le contrôleur aérien, il a évidemment toute sa place sur les aéroports, et que c'est un élément qui permet de garantir la sécurité, d'augmenter la performance environnementale. C'est un vrai sujet en ce moment, comment améliorer les procédures pour consommer moins de carburant, pour être plus performant aussi en termes de capacité. Toutes ces choses-là, c'est des enjeux d'avenir.
Ah oui, voilà. Alors, comme je le disais, on n'a pas pu pas parler de tout en une heure, et pourtant une heure c'est déjà important, et vous avez eu raison de revenir sur cette question des horaires décalés, du rythme de travail. Finalement, ce petit jeune ou le qui a envie de venir, il faut qu'il sache que quelque part votre vie en société est différente compte tenu de vos journées aux horaires variés qui se modifient de jour en jour.
C'est vrai, ça c'est une vraie composante quand même. Hein. Il y a le métier en lui-même, ce qu'on a beaucoup parlé, et la vie à côté. Je ne sais pas quelle est la proportion de gens qui travaillent en horaire décalé, mais mais bon, il y en a. C'est vrai que ça, il y a le confort de se dire je ne suis pas obligé d'attendre le week-end pour aller faire mes courses, par exemple, pour aller à la poste. Voilà. J'ai d'autres moments et ça va beaucoup, forcément beaucoup plus vite. Les horaires décalés, c'est aussi être à contresens des embouteillages quand on habite à Paris. Les horaires décalés, c'est des contraintes, hein. ça veut dire une vacation qui commence à 6h, ça veut dire qu'il faut être debout à 4h. Une vacation qui commence à 19h et qui termine à 6h, ça veut dire une nuit blanche, ça veut dire que le lendemain, quand il faut s'occuper des enfants, c'est des contraintes. C'est aussi des opportunités, de profiter du concert de Grand Corps Malade un mardi soir, par exemple, sans attendre le samedi soir. C'est ce genre de choses aussi. Donc c'est aussi des opportunités.
Voilà. Oui, et puis vous venez de parler de 4h du matin. Bon, je suppose que la veille, supposons que vous soyez en repos la veille dans votre rythme de travail, ça ne signifie pas que travaillant le lendemain à 4h, eh bien, vous ne pouvez pas aller faire une soirée, je dirais, festive. Il y a aussi ça, dans votre contexte du travail.
Ah bah, ça veut dire qu'on ne va pas le faire. C'est-à-dire que c'est très limité. Ça veut dire que personne aime dormir 3 heures, hein, avant de se lever très tôt. Mais ça veut aussi dire peut-être que la nuit va être compliquée, on aura du mal à s'endormir. Les rythmes circadiens, enfin, le sommeil, c'est sûr qu'il en prend un coup. C'est certainement aussi pour ça qu'avec l'âge, 59 ans, c'est certainement un bon moment pour sortir de ces cycles-là. Ça a un impact, c'est sûr. Hein, quand on regarde quels sont les samedis soirs disponibles, il y en a un sur deux avec le rythme qui est le nôtre, où on va travailler le lendemain, où on va travailler le jour même. Donc, c'est pas le vendredi soir, le samedi soir qu'on peut voir les copains. Les week-ends, la famille, c'est pareil. Si la famille travaille en semaine, ne travaille pas le week-end, ça ne veut pas dire que nous, on sera disponible le week-end. Mais ça veut dire qu'on peut faire autre chose dans la semaine. Et je ne voudrais pas laisser non plus penser que c'est qu'une contrainte. C'est une contrainte, indéniablement. Il y a aussi des opportunités qu'il faut savoir aller chercher, comme dans tout, finalement.
Et là, nos auditeurs devraient voir votre sourire. Alors Vincent, je suis désolé, mais nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Alors je vous remercie d'avoir levé un voile technique, mais aussi humain, sur votre métier si particulier d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et, disons, d'aiguilleur du ciel. Alors j'ai une citation, Paul Éluard écrivait « Il nous faut peu de mots pour exprimer l'essentiel, il nous faut tous les mots pour le rendre réel ». Alors oui, merci Vincent, les jours pour cette heure que nous avons partagée, car il n'est pas si facile finalement de vouloir offrir les images de l'exercice d'une telle profession, finalement si proche du réel, et on a discuté de ce réel avec vous. Alors oui, il est difficile de présenter cela seulement par les mots, et aujourd'hui en plus au téléphone, parce que vous étiez au téléphone loin de nous, mais vous y êtes parvenu. Alors Vincent, puis-je vous laisser aiguiller les derniers mots de cette émission ?
Mais merci à vous, merci de parler de ce métier. Et c'est vrai qu'on aurait voulu parler aussi de tous ces métiers qui gravitent autour des contrôleurs aériens. C'est eux dont on parle, c'est eux qu'on voit souvent. Mais il y a tous ces métiers qui sont à côté, les ingénieurs électroniciens, les techniciens qui permettent au système de fonctionner, de les développer, de les accompagner, de traiter les incidents a posteriori, sans parler de nos collègues à Toulouse. C'est l'aviation civile française, la navigation aérienne en particulier, c'est un ensemble dont les contrôleurs font partie pour rendre le meilleur des services aux compagnies, aux aéroports, aux usagers aussi, les clients de ces compagnies aériennes. Voilà. Merci d'avoir permis de lever le voile là-dessus.
Je vous remercie. C'était L'Oiseau Blanc, une émission de Philippe Trousselard, avec notre veille technique, Tiffaine Lemaine, qui était encore souriante malgré la pluie qui s'est abattue durant notre heure avec Vincent. Vous retrouverez bientôt cet enregistrement de L'Oiseau Blanc sur le site de la station, mais aussi grâce aux pages Facebook de l'émission et de la radio. Et n'oubliez surtout pas de télécharger nos applications Apple et Android d'Esprit Occitanie. Et réécoutez tous les podcasts de l'émission qui sont toujours disponibles sur notre site. Dans la prochaine émission, je recevrai M. Farid Zizi, qui est le directeur général de France Aviation Civil Service. Vous verrez que ce mot « service » nous permettra de développer bien des sujets d'actualité en lien avec ce domaine de l'aviation civile. Alors, à très bientôt avec l'Oiseau Blanc.